Bonjour, bonjour. Yves, au micro de Divergence FM. Mais oui, pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Une nouvelle émission de 24 notes secondes. Une émission consacrée à la musique de film. À cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans et partout où vous voulez. Et de préférence sur les grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Voilà qui est dit. Rappelez à nos fidèles auditeurs, bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce jour. Une émission bien française dans 24 notes seconde, puisque nous allons la consacrer à évoquer musicalement et parfois de manière chantée les débuts de la carrière d'un des plus grands acteurs français, né le 17 mai 1904, boulevard Rochechouart à Paris. On ne peut pas faire plus français que ça. En l'espèce, le dénommé Jean-Alexis Gabin Moncorgé, vous l'aurez deviné, alias Jean Gabin, fils de Ferdinand Joseph lui-même et d'une chanteuse de café-concert dont le nom est simple, Hélène Petit, voilà qu'elle s'appelait Hélène Petit. Jean Gabin, donc né à Paris, dans un milieu plus ou moins de spectacle, puisque son papa, quoique tenancier de café, était aussi comédien d'opérette. Quand je dis comédien d'opérette, ça veut dire qu'il jouait dans des opérettes. Et sa maman, quant à elle, Hélène Petit, eh bien, elle était tout simplement chanteuse de café-concert, et qu'elle, dénommée Jean, a eu 6 frères et sœurs aînés, c'est-à-dire qu'il était le petit dernier, vous l'avez compris. Bien que né à Paris, il passe son enfance quelque part dans le Val d'Oise et puis ensuite, eh bien, il enchaîne les coups du sort puisque son papa meurt en 1918 alors qu'il n'a que 14 ans et que pendant la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, il se cherche avant de débuter en 1922, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, aux Folies Bergères comme figurant dans le monde du spectacle. De 1924 à 1925, il effectue son service militaire, puis à partir de 1926, il devient un véritable artiste de music hall et un chanteur d'opérette, là encore, voire plus haut, ce que j'ai dit. Bref, une carrière commencée sur les planches et qui, bien évidemment, puisqu'on sait ce qu'il en est advenu, le conduit tout naturellement au cinéma en 1928 dans 2 courts-métrages bien oubliés que j'avoue ne pas avoir vus, signés avec le comique Raymond Dandy, avant qu'il ne trouve son premier vrai grand rôle dans un film au titre prédestiné, puisqu'il s'appelait justement Chacun sa chance, et où, il me semble, on le voit chanter. Commence alors une carrière tout à fait brillante dont nous allons écouter quelques extraits musicaux. J'ai été bien bavard, donc on va venir tout de suite à la musique. En l'espèce, celle d'un film de 1934 signé de Marc Allégret, avec une musique signée notamment de Vincent Scotto, qui fut certainement l'un des plus prolifiques musiciens du cinéma français. Alors il me semble que le dit film Zouzou était justement adapté d'une opérette, c'est-à-dire que dans ses débuts, Jean Gabin se cherchant, eh bien, commença avec ses premières amours de la scène. On va écouter un petit extrait de cette bande originale. Je vous précise néanmoins qu'aux côtés de Jean Gabin, on retrouvait Joséphine Baker et Pierre Larquet. Zouzou, 1934, dans Divergence FM.
Le soir quand elle passe en roulant des mirettes, plus d'un gars du quartier lui dit sans se faire prier: viens Fifine, au petit bal du Sébasto. Viens Fifine, la Javaille rien de plus beau. Quand tu me frôles, ça me fait drôle, jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le ciboulot. Viens, Fifine, bien pipine, y a pas jeté dans la peau. Oh, 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 oh. Au petit bal du Sébasto, oh, oh, oh. Viens pipine, la java y'a rien de plus beau. Oh, oh, oh. Quand tu me frôles, ça me fait drôle, jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le petit boulot. Oh, viens pipine, y'a pas jeté dans la peau. Oh, oh, oh,
oh. Quand tu me frôles, ça me fait drôle. Quand tu me vis, re, ça me chavis, re. Je reprends, vous avez tout compris, un extrait de la bande originale de Zouzou avec une java en 1934 et la voix inimitable déjà de Jean Gabin. Plus français, tu meurs, pourrions-nous dire. Bref, en tout cas, une période de Jean Gabin auquel nous consacrons, en tout cas au début de sa carrière. Cette émission de 24 notes secondes se cherchait encore, puisque en 34-35, eh bien, on le vit dans Mephisto, dans Paris Béga, dans Toussaint ne vaut pas l'amour, dans Gloria, dans les gaietés de l'escadron, dans la belle Marinière, dans le tunnel, dans Adieu les beaux jours. Et j'en oublie sans doute des petits rôles avant qu'il ne rencontre non pas le cinéaste, qui sera certainement celui qui aura le plus compté pour lui, mais en tout cas celui qui l'aura découvert, en l'espèce Julien Duvivier, l'un des plus grands cinéastes français des années 40-50, un peu moins 60, qui en 1934 engagea notre Jean Gabin déjà national dans deux films. Maria Chapdelaine, adapté du fameux roman de Louis Aymon qui se passe là-bas quelque part au Québec et où Jean Gabin joue François Paradis, c'est-à-dire qu'un bon Parisien joue un Québécois, ma foi. C'était le cinéma français de l'époque et on le vit encore plus improbable dans le Golgotha de Julien Duvivier encore, tourné encore en 1934 où Jean Gabin jouait, non, Ponce Pilate, et non pas Jésus-Christ qui lui-même, était joué par Robert Le Vigan. Bref, des rôles rien moins qu'exceptionnels, plutôt je vais dire pas exceptionnels, rien moins, qui ne présageaient en rien de son triomphe au box-office, que fut en 1935 un autre film de Julien Duvivier, où Jean Gabin retrouvait Annabella, et retrouvait la Légion étrangère avec le sable, les légionnaires qui sentent bon le sable chaud. Tout ça pour un film inspiré d'un roman de Pierre Macorlan qui s'appelait La Bandera, dont je ne vais pas vous proposer, hélas, un extrait de la bande originale. Je ne suis pas sûr que cela existe en tant que tel, mais en tout cas un film qui fut un succès absolument incomparable, qui resta des mois, peut-être des années à l'affiche et qui assura à Jean Gabin une célébrité quasi instantanée, puisque, comme je l'ai dit, il n'avait débuté au cinéma que 4 ans à peine avant, mais qui lui assura une place définitive et lui permit d'enchaîner entre 1935 donc, et 1940, où survinrent les événements dont auxquels vous savez, lui permit d'enchaîner eh bien, quelques chefs-d'œuvre que nous allons évoquer. Et nous allons commencer là encore avec un film de Julien Duvivier tourné, on va dire, dans la foulée de La Bandera. Ça s'appelait La Belle Équipe en 1936. C'était le Front Populaire et à sa manière un peu acide et cynique, Julien Duvivier, assisté du scénariste Charles Pack, s'essaya à montrer l'histoire d'une belle équipe, une bande de copains qui gagne à la loterie, décide d'installer une guinguette au bord de l'eau. Au début, ça se passe bien. Après, ça se passe moins bien. Dans les rôles principaux, on retrouve bien sûr Jean Gabin avec à ses côtés Charles Vanel, Emos, Charles Dora et la délicieuse mais machiavélique Viviane Romance, forcément une femme, vous pensez. Et puis surtout, on retrouve une chanson que là, si vous l'avez jamais entendue, eh bien je vous rembourse votre place, madame, monsieur, dans 24 notes secondes.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau.
Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui affardeux, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau,
Ah ben je vous l'avais dit, vous la connaissiez forcément, quand on se promène au bord de l'eau avec Jean Gabin sur une musique de Maurice Yvain et des paroles de Julien Duvivier, certainement l'une des chansons emblèmes du Front Populaire qui en 1936 triomphait pour peu de temps, hélas, un extrait de la bande originale de La Belle Équipe de Julien Duvivier avec Jean Gabin, donc qui chantait une fois de plus un film sorti en septembre 1936 et qui connut une curieuse destinée commerciale. Puisque à sa sortie, le film fut boudé avec une fin pessimiste qui plut pas beaucoup aux spectateurs, où l'on voyait Jean Gabin assassiner Charles Vanel pour les beaux yeux et le reste de Viviane Romance. Aussitôt, le réalisateur tourna une autre fin où on éclipsait la mauvaise femme et où Charles Vanel et Jean Gabin tombaient dans les bras l'un de l'autre. Enfin, si l'on veut, vous m'avez compris, on est en 1936. Bref, en tout cas, la version qui correspondait le mieux à ce pessimiste incorruptible que fut Julien Duvivier, c'était celle avec la fin. La mauvaise fin, si l'on veut, en tout cas la fin pessimiste que l'on peut encore voir maintenant pour goûter cette chanson vraiment merveilleuse. Alors, il me semble que c'était plutôt une valse, mais ça avait quand même des airs un petit peu de Java. Dans 24 notes secondes, où nous allons continuer à égrener les sommets de la carrière de Jean Gabin, qui fut à peine terni par cet relatif insuccès de La Belle Équipe, puisqu'il enchaîna, ou presque, avec un autre film de Julien Duvivier. Il avait bien compris que le dit Duvivier était certainement l'un des cinéastes qui pouvait le mettre le mieux en valeur, et on changea à la fois complètement de genre et complètement de pays, puisque dans le film suivant, en tout cas dans le film que nous allons évoquer musicalement suivant, Pépé le Moko, eh bien Jean Gabin se retrouvait quelque part dans la Casbah d'Alger, un gangster en fuite qui avait quitté Paris pour des raisons qui n'étaient jamais clairement explicitées et qui se trouvait tout à la fois le roi de la Casbah et le prisonnier de la Casbah, de laquelle il ne pouvait pas sortir sous peine d'être arrêté par les policiers. Et qu'est-ce qu'il en advint ? Eh bien, à nouveau, une femme fatale, comme le cinéma français en secrétait, si l'on veut, tant à l'époque, en l'espèce non plus Viviane Romance, Mireille Balin. un peu plus fade, en tout cas à mon goût, qui, la belle parisienne, en belle parisienne qu'elle était, parvenait à séduire le dit Jean Gabin et à le faire sortir de la Casbah, où il mourrait, bien sûr, puisque l'une des caractéristiques de Jean Gabin, c'était que dans beaucoup des films, il mourrait à la fin. C'est pas Mel Gibson ou Harrison Ford qui auraient fait ça. Nous sommes dans une autre époque et nous allons écouter un nouvel extrait de la bande originale de ce film, un film de Julien Duvivier tourné en 1937. Ça s'appelait Pépé le Moko. Ah, je voulais quand même vous préciser que même s'ils ont vieilli, les dialogues fort savoureux de ce film étaient signés d'Henri Janson et que la bande originale, il faut quand même en parler, était signée de Vincent Scotto. Pépé le Moko, 24 notes, seconde.
Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide, bref on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide, à New York cherchera un dollar. Parmi les gueuses et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Mais Montmartre semble disparaître, car déjà de saison en saison, des abbesses à la place du tertre, on démolit nos vieilles maisons. Sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes, vous les pauvres gosses à poulbeau? En regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis, Montmartre ton des profondes. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous c'était dimanche. Où sont-ils nos amis, nos copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son d'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais, même sans avoir un rang? Où sont-ils donc?
Ah, on ne s'en lasse pas, c'était la grande Fréhelle. Sans doute peu d'entre vous l'auront reconnu, mais certainement quelques-uns, je n'en doute pas. Un extrait de la bande originale, si l'on veut, de Pépé le Moko, un film de Julien Duvivier tourné en 1937. Fréhelle, qui fut dans les années 10, les années 20, l'une des plus grandes chanteuses réalistes de France et qui, eh bien, dans les années 30, était parvenue à une certaine déchéance. Et d'une certaine manière, dans ce film de Julien Duvivier, elle jouait quasiment son propre rôle, une espèce de loque bouffie, je suis désolé d'avoir à le dire. Et à un moment, eh bien, on la voyait non pas interpréter la chanson, si je me souviens bien, mais écouter un disque de Fréhelle, qui écoutait Fréhelle. Vous m'avez suivi certainement aussi. L'un des plus beaux hommages à la plus belle ville du monde, je vous entends. Mais oui, Paris, bien sûr. Certainement l'un des plus beaux hommages dans le cadre de cet autre hommage à Jean Gabin, auquel nous consacrons cette émission de 24 en autre seconde. Jean Gabin qui, dans les années 35 à 40, bien tourna dans une quantité incroyable de chefs-d'œuvre. Je ne veux pas dire un grand nombre de films, mais en tout cas presque tous des chefs-d'œuvre. Alors on peut, dans les années qui suivent, excepter Les Bas-fonds, qui n'est peut-être pas le meilleur film de Jean Renoir, mais on ne peut pas excepter évidemment La Grande Illusion, avec Jean Gabin bien sûr, Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Eric von Stroheim, que personne n'a oublié dans cette évocation de la guerre de 14, qui est certainement la presque plus beau film de Jean Renoir, le plus beau étant évidemment La Règle du jeu, tourné en 1939, dans lequel on ne retrouvait pas Jean Gabin. Cette même année, 1937, on vit le même Jean Gabin et la même Mireille Balin interpréter une sorte de suite à Pépé le Moku, en tout cas un film qui souhaitait profiter du succès, là encore phénoménal, du susdit. Ça s'appelait Gueule d'amour, et ma foi, même si le cinéaste en question était le plus qu'estimable Jean Grémillon, le résultat était quand même en mode mineur par rapport à ce Pépé le Moku, qui reste certainement l'un des films phares de ces années 30. D'ailleurs, les Américains ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils tournèrent deux remakes de ce film, dont le premier avec Charles Boyer. En 1938, après Les Bas-fonds, Jean Gabin retrouva à nouveau Jean Renoir, cette fois pour l'adaptation d'un roman d'Émile Zola, dans lequel on le voyait interpréter le rôle de Jacques Lantier, qui conduisait avec le chauffeur Péqueux, interprété par Julien Carrette, sa locomotive, la liaison entre Le Havre et Paris. Et comme souvent, entre la machine et l'homme, qu'est-ce qu'il y a ? Une femme, bien sûr, en l'espèce la délicieuse et troublante Simone Simon, Séverine dans le film, qui vient introduire un grain de sable, ou plutôt une escarbille, puisqu'il s'agit d'une histoire virile de chauffeur de locomotive. La musique de ce film était signée de Joseph Kosma. Pourquoi qu'on s'en écouterait pas un petit morceau ? Allez Marcel, chauffe dans 24 notes secondes. Voilà un extrait de la bande originale d'un film de Jean Renoir, c'est mieux, tourné en 1938 d'après un roman d'Émile Zola, La Bête humaine, bien sûr. Directeur de la photo, Kurt Courant, décor d'Eugène Laurier, musique de Joseph Kosma. Bref, la crème du cinéma français de l'époque, avec évidemment devant la caméra un casting, comme l'on dit maintenant, une distribution, c'est mieux, qui était aussi de poids, puisqu'on retrouvait Simone Simon, on retrouvait Fernand Ledoux, on retrouvait Julien Carrette, quelques autres bien oubliés, mais qui à l'époque comptaient, et on retrouvait bien sûr dans le rôle principal de Jacques Lantier, le conducteur de locomotive maudit par son ascendance, par son hérédité, le grand thème d'Émile Zola, l'idée qu'on ne peut pas échapper à son héritage et à son hérédité. le mécanicien Jacques Lantier, victime d'un amour sans espoir ou presque pour Séverine alias Simone Simon. Tout cela finit mal à la fois pour lui, à la fois pour Simone Simon et aussi pour la locomotive, en l'espèce la Lison, qui, à ma souvenance, eh bien, finit quelque part en bouillie métallique, certainement l'un des plus grands films de Jean Renoir, avec La règle du jeu déjà citée et avec aussi, j'en oublie, La grande illusion. La grande illusion, bien sûr, quelques-uns parmi les chefs-d'œuvre tournés par les grands cinéastes français de ces années-là. Julien Duvivier, déjà cité, Jean Renoir, Marcel Carné, auquel nous allons revenir, et quelques autres qui ont en commun un acteur d'exception qui, en quelques années, avait imposé des personnages absolument charismatiques. Il faut dire que l'homme ne l'était pas moins, même si, paraît-il, son caractère était des plus trempés. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Jean Gabin, auquel nous consacrions cette émission de 24 notes secondes. Alors, je ne sais pas trop, ça dépendra du minutage, si nous allons la finir avec cet extrait de musique. En tout cas, on va le faire écouter tout de suite. C'est un film de Marcel Carné, duquel j'aurais dû vous parler, mais il faudrait une émission pour cela. On va plutôt écouter un extrait de sa bande originale. C'était la dernière composée par Maurice Jaubert, certainement l'un des grands compositeurs, lui aussi, de l'avant-guerre, qui connut une fin tragique au début de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il fut tué au tout début, en 1940, de cette guerre. Dans ce film, on retrouve Jean Gabin, bien sûr, on retrouve Arletty, Jules Berry, Bernard Blier et quelques autres. Un chef-d'œuvre, Marcel Carné, Le jour se lève. Le jour se lève dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.